Alors, Le Voyage des Innocents de Mark Twain. Donc, c'est la traduction d'un livre de Mark Twain en français, hein, puisque Le Voyage des Innocents, c'est le livre français, qui est à la médiathèque, si vous voulez le lire. Le titre original, c'est Is Innocent Abroad, Les Innocents à l'étranger. Ce livre relate, sur un mode humoristique, le voyage d'un groupe de touristes américains autour de la Méditerranée. Je vous dis quelques mots de la biographie de Mark Twain. De son vrai nom, il s'appelait Samuel Langhorne Clemens. Il est né le 30 novembre 1835 dans le petit village de Florida dans le Missouri. Quand il a 4 ans, sa famille déménage à Hannibal, ville portuaire sur le Mississippi. C'est un portrait de Mark Twain. Voilà sa maison à Hannibal. C'est une photo ancienne et une maison restaurée qui est un petit musée maintenant. Cette ville, au bord du Mississippi, lui a inspiré de nombreux épisodes de son roman « Les aventures de Tom Sawyer ». Son père meurt quand il a 12 ans. Et comme la famille est sans le sou, il est obligé de travailler. Il trouve une place comme apprenti imprimeur au journal Hannibal Courier. Puis à 15 ans, il travaille au journal Hannibal Western comme imprimeur et rédacteur occasionnel. En 1857, à 22 ans, il réalise un rêve. Il commence à apprendre à piloter les vapeurs sur le Mississippi. Il a sa licence de pilote en 1859, mais son expérience se termine brusquement lorsqu'éclate la guerre de sécession en 1861. Le trafic sur le Mississippi s'est arrêté, donc il est obligé de partir. Il part alors vers l'ouest, vers le Nevada et la Californie, où il vivra 5 ans. Il fait un essai malheureux comme chercheur d'or, puis se fait engager dans divers journaux de la région. Il écrit à la chaîne des articles, des nouvelles et prend le pseudonyme de Mark Twain. En 1864, on le trouve à San Francisco, comme reporter au San Francisco Morning Call. Ses écrits sont appréciés. En 1865, il fait paraître un conte humoristique, The Jumping Frog, qui sera diffusé dans les journaux et les magazines dans tout le pays. En 1966, il fait un voyage de 4 mois aux îles Sandwich pour les journaux de Sacramento Union et il commence à organiser des conférences sur ce voyage. À la fin de 1966, il part pour New York. Comme correspondant du San Francisco Alta California, il effectue une croisière en Méditerranée qui sera le sujet de cet exposé. Et il en tire un livre en 1869, « The Innocents Abroad ». Après l'apparition de ce livre, qui devient un best-seller, il est un auteur célèbre. Il renforce son statut social en 70 en épousant la fille d'un riche marchand de New York, Olivia. Elle est très belle, mais elle était de santé fragile, tout le temps malade. Ils auront 3 filles. En 72, il s'installe à Hartford dans le Connecticut, se fait construire une magnifique maison et mène une vie mondaine et bourgeoise. Il fait de nombreux voyages en Europe en attendant. Il a passé sa vie à voyager, Mark Twain. Il fait paraître Tom Sawyer en 1876 et Huckleberry Finn en 84. Il écrit toujours des romans, des essais. Je ne vous donne pas la liste parce que c'est un peu... D'abord, ce n'est pas intéressant. Il est au sommet de sa célébrité, mais il fait des mauvaises affaires. Alors donc, il part vivre en Europe. Avec sa famille. Il amène tout le monde parce qu'il pense que la vie en Europe est moins chère qu'en Amérique. Il habite en France, à Aix-les-Bains, en Allemagne, à Heidelberg, en Suisse, à Lausanne, et en Italie, près de Florence. Pour payer ses dettes, il fait une grande tournée de conférences. Puis il continue à voyager et ne rentre à New York qu'en 1900. Sa femme meurt en 1904. Il vit à New York, voyage toujours. Mais ces dernières années sont assombries d'abord par la mort de sa deuxième fille au cours d'une crise d'épilepsie. Ensuite, il a des troubles cardiaques, il ne peut plus voyager et il meurt le 21 avril 1910 à Reading dans le Connecticut. Lorsqu'il participe à ce voyage, nous parlons maintenant du voyage, il a 32 ans et déjà une solide expérience de journaliste. Il est envoyé comme correspondant, donc je vous l'ai déjà dit, du Daily Alta California de San Francisco. Il écrit pendant ce voyage de nombreuses lettres que ces journaux publieront au fur et à mesure de leur réception. Il en a écrit 53. À son retour, il fait une tournée de conférences et se décide enfin à faire paraître un livre à partir des articles qu'il a écrits. Le livre paraîtra en 1869. Alors là, vous avez l'édition originale. Ensuite, il y a eu plein de rééditions, des rééditions en livre de poche. Il faut avant tout dire que, je vais vous faire quelques remarques préliminaires là, il faut avant tout dire que ce récit est une relation subjective du voyage, avec des épisodes drôlatiques qui comportent des exagérations et des à peu près, qui font tout le charme de ce livre d'ailleurs. Cependant, il reflète bien l'atmosphère de l'entreprise qui est un des premiers voyages touristiques modernes. Il reflète également la mentalité des Américains de cette époque. Moi-même, je ne vous relaterai en détail que certains épisodes du séjour en Italie, qui est lui-même une toute petite partie du voyage, environ 3 semaines sur un voyage de 5 mois et demi. Je ferai aussi moi-même un récit subjectif. J'espère ne pas trop vous choquer, car Mark Twain n'apprécie pas du tout la religion telle qu'elle est pratiquée en Italie à cette époque. Il se montre féroce. Alors, le voyage. Nous sommes donc en 1867. Les États-Unis sortent de la guerre de sécession, qui s'est terminée en 1865. Nous assistons alors au renforcement de l'Union, du pays, l'abolition de l'esclavage. Et bien que le redressement économique soit difficile, c'est l'Amérique qui est une jeune puissance avec un grand développement industriel et technologique. Le voyage est organisé par une église évangélique de Brooklyn, la Plymouth Church of Brooklyn. Son but assumé est un pèlerinage en Terre Sainte. Le programme du voyage indique le confort du bateau, le trajet et les escales. Alors, voilà le voyage. Le bateau fait donc escale à Gibraltar, d'abord aux Açores, ensuite à Gibraltar. Il s'arrête à Marseille. Là, les voyageurs vont jusqu'à Paris, vont voir l'exposition universelle. Donc, de Marseille, ils vont à Gênes. Ensuite, Gênes, Livourne, Naples, Athènes, où d'ailleurs ils ne peuvent pas débarquer parce que le bateau est en quarantaine, en Turquie, à Istanbul. Ils vont voir le tsar Alexandre II à Yalta, dans son palais d'été. Ils sont invités. C'est vraiment un voyage, comment dirais-je, pas officiel, mais très, enfin, si, presque officiel. Ensuite, la Turquie. La Terre Sainte, où il reste très longtemps parce qu'il visite tous les sites de la Terre Sainte. Un arrêt à Alexandrie pour aller voir les pyramides. Et ils repartent aux États-Unis. Donc ça durait 5 mois et demi tout ça. Enfin, il y avait un mois et demi de mer. Mais enfin, c'est quand même un voyage très très long. Le départ est fixé le 8 juin 1867. Le bateau est le Quaker City. C'est un bateau à aubes construit en 1854 à Philadelphie. Il a été utilisé pendant la guerre de sécession, puis désarmé après la guerre et transformé en navire de commerce. Le prospectus vante le confort du bateau, le nombre de voyageurs sera limité à 70, pour 150 voyageurs en cabine, donc c'est déjà une limite. Il comportera des équipements culturels, comme des instruments de musique, une bibliothèque, une petite presse pour imprimer le journal quotidien. Il y aura aussi un médecin à bord. Il est également suggéré que les voyageurs se munissent d'une Bible et de guides de voyage en Terre Sainte. Le prix du voyage est de 1 250 $ et les passagers sont sélectionnés par le comité d'organisation. Voilà la première citation du livre. Je fus fière de constater que parmi nos voyageurs figuraient 3 pasteurs, 8 docteurs, 16 ou 18 dames, plusieurs gradés de l'armée et de la marine avec titres ronflants, un bon paquet de professeurs divers et un monsieur dont le nom était suivi d'un tonitruant, délégué des États-Unis d'Amérique en Europe, Asie et Afrique. je m'étais prudemment préparée à occuper sur ce navire une place au dernier rang en raison de l'inhabituelle distinction de la compagnie. Nous avons donc affaire à une croisière sinon de luxe, du moins qui s'adresse à une catégorie sociale élevée. Son compagnon de cabine est un jeune homme gai et intelligent avec lequel il fera de nombreuses escapades lors des escales. Voici les passagers, ça c'est une gravure du livre, hein. Les passagers au départ et les passagers en photo, hein, sur le pont du bateau. Twain est dans le cercle là. La vie à bord s'organise dans le train-train quotidien. On lisait un peu, on fumait, on cousait beaucoup. Dans le fumoir, il y avait des groupes de messieurs en train de jouer aux cartes, aux dames et aux dominos. Surtout aux dominos, jeu délicieusement inoffensif. Sur le pont, on joue à la marelle. Après le repas du soir, la compagnie se réunit pour les dévotions. Deux cantiques et une courte prière qui ne prenait rarement plus d'un quart d'heure. Le soir, pour distraire les passagers, on fait de la musique, on essaie d'organiser une chorale, mais tout le monde chante faux. Un soir, on organise un bal, mais la danse est encore pire que la musique. Quand le bateau roulait à tribord, tout le bataillon des danseurs chargeait avec lui à tribord et butait contre le bastingage. Et quand il roulait à bâbord, il s'y ruait avec la même unanimité. Enfin, le bateau arrive aux Açores, premier contact avec l'ancien monde. Après une tempête d'une semaine que Twain décrit avec force détail, le bateau aborde à Gibraltar. Une partie de la troupe remonte en France en traversant l'Espagne. Twain reste sur le bateau et fait une escapade d'une journée à Tanger, où il trouve un exotisme digne des mille et une nuits. Le 6 juillet, le bateau aborde à Marseille, puis trajet en train jusqu'à Paris. Il visite l'exposition universelle de 1867. Twain est impressionné par la prospérité de la France et la beauté de Paris qui vient d'être rénovée par Haussmann. De Marseille, le bateau accoste à Gênes. Nous voilà en Italie. Ils partent en voiture pour... Alors, je vous donne l'itinéraire en Italie. Alors, voilà l'itinéraire en Italie. Donc, ils partent en voiture pour Milan, de Gênes. Le lac de Côme, puis le train pour Venise, ensuite Florence et Pise. À Livourne, le bateau les attend. Ils prennent un autre bateau pour Civita Vecchia, puis parce qu'il y a des problèmes de quarantaine. Puis Rome par le train, et Rome-Naples en train. Et à Naples, ils quittent l'Italie. Alors, Gênes. Dès son arrivée, Twain est frappé par la beauté des femmes. C'est un célibataire de 32 ans, n'est-ce pas ? Alors, j'aimerais rester ici. Il y a peut-être des femmes plus belles en Europe, mais j'en doute. Elles sont mises avec autant d'élégance et de goût. Elles sont aussi gracieuses que faire se peut, à moins d'être des anges. Encore que je ne pense pas que les anges soient élégants. La plupart des jeunes demoiselles sont vêtues d'un nuage blanc, de la tête aux pieds. 9 sur 10 ne portent sur la tête qu'un voile léger qui leur tombe sur le dos comme une brume blanche. Elles sont très blondes et beaucoup ont les yeux bleus. Mais on rencontre souvent des yeux noirs ou bruns, rêveurs. Il est également étonné et charmé par l'habitude des habitants de se promener le soir de 6h à 9h dans un grand parc. Découvre pour la première fois la Passeggiata. Il visite des palais couverts de tableaux, mais vides de leurs habitants. Nous avons visité plusieurs palais, d'immenses masses aux murs épais, avec de grands escaliers de pierre, des pavages de marbre et de grands salons contenant des tableaux de Rubens, Le Guide, Titien, Véronèse, etc. Mais naturellement, les occupants étaient tous partis à la campagne pour l'été et n'auraient peut-être pas eu l'idée de nous inviter à dîner s'ils avaient été chez eux. Si bien que dans tous ces salons vides, notre bonne humeur déclina et notre gaieté nous abandonna. Après le palais, les églises. Depuis bien longtemps, je n'étais pas allée à l'église aussi souvent que ces dernières semaines. Dans ces vieux pays, les gens semblent avoir la spécialité de construire des églises. Les rues sont parsemées de bout en bout de curés bien nourris, portant chapeaux plats et longues robes, et les cloches des églises carillonnent toute la journée ou presque. De temps en temps, on rencontre un moine gris, la tête rasée, en longue robe grossière, les pieds nus ou enfermés dans des sandales. Ensuite, nous avons un couplet contre les reliques. Ils ont vu des cendres de Jean-Baptiste, un morceau de la croix dans chaque église, un tableau de la Vierge peint par Saint-Luc. On nous a montré un portrait de la Madone peint par Saint-Luc qui paraissait bien moins vieux et noirci que certains tableaux de Rubens. Nous n'avons pas pu nous empêcher d'admirer la modestie de l'apôtre qui n'a jamais dans ses écrits n'a indiqué qu'il était peintre. Je vais quand même vous montrer un tableau de Saint-Luc peint par la Vierge du Guerchin. La dernière chose qu'ils ont vue est le cimetière. Il y a des monuments, des tombeaux et des sculptures délicatement travaillées. Ben, je vais vous montrer le cimetière. Chaque ligne est parfaite, chaque trait intact. Et pour nous, ces imposantes rangées de formes admirables sont 100 fois plus belles que les statues endommagées et ternes qui ont été sauvées du naufrage de l'art antique et installées dans les musées de Paris à l'adoration du monde. Le trajet Gênes-Milan s'effectue en voiture, en passant par Alessandria et le champ de bataille de Marengo. Dès leur arrivée à Milan, les voyageurs sont séduits par le Duomo, qu'ils découvrent à la tombée de la nuit. Enfin, une forêt d'aiguilles gracieuses, chatoyant dans une lumière d'ambre, s'éleva lentement au-dessus des toits minuscules. Quelle merveille! Si imposante, si solennelle, si vaste, et pourtant si délicate, si aérienne, si gracieuse. Sous la douceur de la lune, elle semble n'être qu'une illusion féerique de fleurs de givre disparissant au premier souffle. Ils sont montés sur le toit pour voir de plus près cette forêt de flèches. Ah non, ça c'est la cathédrale au début du 19e siècle. À 9h du matin, nous sommes allés voir ce colosse de marbre. La grande porte centrale était bordée d'un bas-relief d'oiseaux, de fruits, d'animaux et d'insectes, si ingénieusement taillés qu'ils semblaient vivants. Ils sont montés sur le toit pour voir de plus près cette forêt de flèches. Là, jaillissant du dallage de marbre, nous pouvions voir les longues files de flèches. Nous pouvions nous rendre compte maintenant que chaque statue surmontant une flèche avait largement la taille d'un homme, alors qu'elle paraissait dépoupée vue de la rue. Nous pouvions aussi voir que de l'intérieur de chacune de ces flèches, 13 à 31 magnifiques statues de marbre surplombaient le monde. À l'intérieur, ils sont admiratifs devant l'immensité de l'édifice et ne retiennent du mobilier que la statue de Saint-Barthélemy l'Écorché. Le guide nous a montré une statue couleur café. La statue est celle d'un homme écorché. Chaque veine, chaque artère, chaque muscle, chaque tissu du corps humain sont représentés dans le moindre détail. Il paraît naturel, car d'une certaine façon, il a l'air de souffrir. C'était hideux et pourtant fascinant à la fois. Je regrette de l'avoir vu, car je le verrai toujours désormais, j'en rêverai parfois. Il visite ensuite la crypte et le tombeau de Saint-Charles Borromée. Le curé s'est arrêté dans une petite cellule et a élevé sa bougie. C'était la dernière demeure d'un homme de bien, un homme qui a consacré toute sa vie à secourir les pauvres, à soulager la détresse partout où il l'a rencontré. En pensant à son histoire, nous pouvions presque voir son personnage se promener calmement parmi les visages hagards de Milan, au temps où la peste ravageait la ville. C'était le bon Saint-Charles Borromée, évêque de Milan. Nous nous trouvions devant son tombeau. Les murs étaient recouverts de bas-reliefs d'argent massif, représentant des scènes de sa vie. Les reliques du trésor de la cathédrale lui inspirent évidemment des sarcasmes. Encore une couronne d'épines, un portrait de la Vierge peint par Saint-Luc, mais j'en passe. Ils vont à la Scala, mais apparemment sans écouter d'opéra. Ils sont en admiration devant les manuscrits de la bibliothèque ambrosienne. Nous devinons l'intérêt de la jeune Amérique pour les choses anciennes. Il voit en particulier un manuscrit de Virgile annoté par Pétrarque. Vous savez, c'est le fameux manuscrit de Pétrarque, de Virgile, et qui, je vous mets le frontispice du manuscrit, qui est une commande de Pétrarque à Simone Martini. C'est l'allégorie des Georgiques de Virgile. À propos de Virgile, Twain fait une digression. À propos de ce manuscrit, donc Twain fait une digression sur Pétrarque, une digression particulière. Ce monsieur qui aima alors d'un autre et lui prodigua toute sa vie un amour qui était un vrai gaspillage de matières premières. Sentiment profond mais absence de discernement. Il rendit les deux personnages célèbres et créa pour les âmes sensibles une source de compassion qui n'est pas encore tarie. Mais qui se préoccupe du pauvre monsieur Laure ? Je ne connais pas son nom. C'est Hugues d'Ossade. Qui chante sa gloire ? Qui verse des larmes sur lui ? Qui écrit de la poésie pour lui ? Personne. À votre avis, que pensait-il de la situation qui a procuré au monde tant de plaisir ? Croyez-vous que ça lui plaisait de voir un autre homme suivre sa femme partout, avec ses sonnets dédiés aux sourcils de Laure, alors qu'il avait sur eux un droit de péremption ? Ces deux-là ont acquis renommée et sympathie, alors que lui n'a rien eu. Tout cela est très bien, mais ne correspond pas à ma conception du droit. Je ne sais pas ce qu'en pense Marie-Hélène. Mais non. C'est Monsieur Laure, c'est Hugues d'Ossade. Visite à la scène de Léonard de Vinci. Et encore des réflexions originales. Ici, à Milan, dans une vieille église croulante, une véritable ruine, se trouvent les tristes débris du tableau le plus admiré du monde, la scène de Leonardo da Vinci. La scène est peinte sur le mur délabré de ce qui était une petite chapelle. Elle est pleine de coups et de balafres, souillée et décolorée par le temps. Et les chevaux de Napoléon ont fait disparaître à coups de sabots les jambes de la plupart des disciples. Les coloris sont ternis par le temps, les visages sont écaillés et brouillés, et presque toute expression les a quittés. Les cheveux sont une tache floue sur le mur et il n'y a pas de vie dans les regards. Le monde semble s'être installé depuis longtemps dans l'idée qu'il n'est pas possible au génie humain de surpasser cette création de Vinci. Je suppose que des peintres continueront à la copier aussi longtemps que l'original sera visible. Il y avait dans la pièce une douzaine de chevalets et autant d'artistes transposant la grande image sur leur toile. Et comme d'habitude, je n'ai pu m'empêcher de remarquer que les copies étaient supérieures à l'original. À mon œil expérimenté, s'entend. Il faut dire qu'en 1867, le tableau était dans un état lamentable. Il avait subi des restaurations maladroites au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle qui avaient abîmé la peinture ou tout au moins ce qui en restait. Et toi, il ne pouvait pas voir la scène comme nous la voyons aujourd'hui, après la restauration récente qui a duré de 1978 à 1999, et d'ailleurs qui a été beaucoup trop restaurée, d'après l'avis de certains critiques, et il paraît qu'il restait presque plus rien du tableau. Hein. D'autre part, la salle du réfectoire et non la chapelle, comme il le croyait, n'était pas non plus encore restaurée. Twain ironise à son habitude, mais cela n'empêche pas de s'interroger de façon toute moderne sur la réception d'une œuvre par les spectateurs, sur l'imagination qui suggère et reconstruit ce que l'on devrait voir. On vient du monde entier admirer ce chef-d'œuvre. Les gens restent devant, extasiés, souffle coupé. Vous penseriez que ces hommes ont un don surprenant pour voir des choses qui ont déjà disparu. Nous pouvons imaginer la beauté d'un visage vieilli. Nous pouvons imaginer la forêt si nous en voyons les souches. Mais nous ne pouvons pas voir ces choses là si elles n'y sont pas. Je suis prêt à croire que le regard d'un artiste exercé peut raviver une teinte qui s'est fanée, rendre une expression qui a disparu. Mais moi, je ne peux pas réaliser ce miracle. Tous les autres visiteurs sans inspiration peuvent-ils le réaliser? Ou bien est-ce seulement la chance d'imaginer qu'ils le peuvent? Là, il n'y a plus d'ironie, n'est-ce pas? Milan a bien d'autres charmes pour ce groupe de touristes. Le soir venu, ils se promènent dans les parcs, jouent au billard, se promènent dans les rues, mangent des glaces et comparent. Nous nous sommes promenés un moment dans l'une des rues les plus populaires, prenant plaisir à voir les autres se sentir à l'aise et souhaitant pouvoir exporter un peu de cette aisance dans les villes agitées et bousculées de chez nous qui épuisent notre vitalité. C'est là, par ailleurs, que réside le charme principal de la vie en Europe. En Amérique, nous nous pressons, ce qui est bien. Mais quand la journée de travail est finie, nous continuons à penser aux pertes et aux profits. Nous y consumons nos énergies. Et soit nous mourons jeunes et nous tombons dans une vieillesse maigre et chiche, à un moment de la vie que l'on appelle en Europe la force de l'âge. De jour en jour, nous perdons un peu de notre agitation et nous nous laissons gagner par la quiétude qui nous environne. Nous commençons à comprendre à quoi sert de vivre. Le trajet de Milan-Côme se fait en train, en admirant le paysage montagneux, les villages perchés et les châteaux en ruine sur les sommets. Excursion sur le lac sur un petit vapeur vers Bellagio. L'hôtel est au bord du lac, avec vue magnifique sur l'autre rive. La description est classique, village, jardin, verger. La suite du voyage se fait en bateau jusqu'à Lecco, puis en voiture jusqu'à Bergame. De la voiture, Twain nous décrit ce que l'on peut appeler l'Italie profonde. Les maisons étaient de pierres massives et rarement en bon état. Les paysans et leurs enfants étaient en général inoccupés. Et les ânes et les poulets étaient installés dans la salle et la chambre sans être inquiétés. Absolument tous les conducteurs des lentes charrettes de marché étaient étendus au soleil sur leurs marchandises, profondément endormis. Toutes les 5 minutes, nous rencontrions un signe religieux. L'image rudimentaire d'un saint encastré dans une croix ou un énorme pilier. Certaines images du Sauveur étaient à leur manière des curiosités. Elles le représentaient en croix, le visage déformé par l'agonie. De chaque partie de son corps transpercé coulaient des flots de sang. Il y avait des accessoires étonnants pour en rehausser l'effet de réalisme. C'était des objets en bois et en fer disposés tout autour. Un paquet de clous, le marteau pour enfoncer les clous, l'éponge, la lance, etc. Ça et là, sur les façades des auberges, nous avions trouvé des fresques grossièrement peintes, représentant des martyrs souffrants. Nous étions au cœur même du pays des prêtres, pays d'une ignorance heureuse, allègre, satisfaite. Pays de la superstition, de l'abrutissement et de l'indolence, et d'une pauvre nature sans ambition. Je vous avais averti. Ils prennent le train à Bergame, passent sans s'arrêter devant le lac de Garde, Vérone, Padoue et arrivent à Venise. Alors, Venise, le premier abord est décevant. Venise, qui fut près de 1400 ans une république magnifique, est tombée dans la pauvreté, l'abandon et le délabrement mélancolique. Nous sommes arrivés à Venise à 8 heures du soir et sommes montés dans un corbillard appartenant au grand hôtel d'Europe. Du moins, cela ressemblait plus à un corbillard qu'à autre chose, bien que ce fût une gondole. Venise venait d'être rendue au royaume d'Autriche l'année précédente et l'Autriche avait laissé périclter le port puisque tout le trafic passait par Trieste, hein, qui était autrichien. Mais l'impression change quand ils arrivent sur le Grand Canal. Dans la douceur du clair de lune, la Venise poétique et romanesque apparut. Au ras de l'eau s'élevaient de longues rangées de palais de marbre. C'était un très beau tableau. Mais cette Venise n'était rien à côté de la Venise de minuit. Il y avait une fête en l'honneur d'un saint qui a contribué à enrayer le choléra il y a 300 ans. Et Venise tout entière était sur l'eau. 2000 gondoles étaient réunies et chacune d'elles avait 20 ou même 30 lanternes de couleur, On aurait dit un immense jardin de fleurs multicolores. Ils ont la chance d'assister à la fête du Redentore, commémorant la fin de la peste de 1575, le troisième dimanche de juillet, ça se passait sur le Grand Canal, avec gondoles illuminées, les habitants de Venise festoient sur les gondoles avec des orchestres. Je ne vous parle pas du circuit touristique classique, avec visite du Palais des Doges, du Pont des Soupirs et la relation de tout le folklore des prisons. Ils trouvent la basilique de Saint-Marc délabrée. Tout est usé. Chaque bloc de pierre est devenu lisse et presque informe à force d'être poli par les mains et les épaules des flâneurs. À propos du tombeau de Saint-Marc, il reprend tout en se moquant la légende de la translation du corps de Saint-Marc d'Égypte en Italie. Vous savez, le corps avait été exfiltré dans une carcasse de porc, hein, pour pas que les musulmans y touchent. Dans la longue liste des églises et des musées qu'ils ont visités, il ne parle en détail que de l'église des Frari, où il ne décrit que les tombeaux, celui de Titien, de Canova, et particulièrement celui du doge Giovanni Pesaro. Le monument du doge Giovanni Pesaro est une curiosité en matière d'ornement funéraire. Il représente la façade d'une sorte de fantastique temple païen. Contre lui se tiennent quatre gigantesques Nubiens, vous les avez là en détail, quatre gigantesques Nubiens noirs comme la nuit, habillés de vêtements de marbre blanc. Les jambes noires sont nues et à travers des fentes, dans les manches et la culotte, apparaît la peau de marbre noir luisant. Deux squelettes de bronze portent des rouleaux. Les squelettes, normalement, ils sont là. Je vous en ai mis un là, en détail. Portent des rouleaux. Et deux grands dragons soutiennent le sarcophage. Les dragons sont là. Au sommet, parmi tout ce grotesque, est assis le doge des femmes. Il ne dit pas un mot des peintures du Frari. Peut-être qu'elle n'y était pas encore, hein, j'en sais rien. L'Assomption de Titien, qui devait y être quand même, hein, et les tableaux de Bellini. À propos de peinture, Twine est arrivé à saturation. Nous avons vu tant de tableaux célèbres que nos yeux sont las de les regarder et refusent d'y trouver encore de l'intérêt. Et comment s'en étonner, alors qu'il y a 1200 tableaux de Palma le Jeune à Venise et 1500 Tintoré, et que le nombre de Titien et autres artistes est en proportion. Nous avons vu les fameux tableaux de Titien, Caïn et Abel, David et Goliath, et le sacrifice d'Abraham. Nous avons vu le gigantesque tableau du Tintoré, que nous avons trouvé fort grand. Le tableau de Tintoré doit représenter les noces de Cana. Ce sont des tableaux, tous les tableaux que Twine a cités, sont des tableaux qui sont dans la sacristie de l'église de la Saleté. On peut se demander pourquoi il cite cela particulièrement, peut-être qu'il a pris des notes et puis qu'il n'a pas pris des notes sur les autres, j'en sais rien. Il fait un long excursus sur la façon innocente qu'il a d'envisager la peinture en général et vénitienne en particulier. Je ne devrais pas l'avouer. Cependant, puisque nous n'avons pas l'occasion en Amérique d'acquérir un jugement critique sur la peinture, et puisque je ne pouvais pas espérer m'instruire en Europe en quelques courtes semaines, je peux donc tout aussi bien reconnaître, avec toutes les excuses qu'il se doit, qu'après avoir vu un de ces martyrs, il m'a semblé que je les avais tous vus. Ils ont tous un grand air de famille. Ils sont habillés pareil, robe de moine grossière et sandales. Ils sont tous chauves et tous sans exception regardent vers le ciel. Pour moi, il n'y a rien de palpable dans ces portraits imaginaires. Rien qui puisse me retenir et provoquer en moi un réel intérêt. Mais comme nous sommes humbles et sans prétention dans le domaine de la peinture, nos recherches parmi les portraits de moines et de martyrs n'ont pas été vaines. Nous sommes fiers de nos petites connaissances. Quand nous voyons un moine qui se promène avec un lion et qui regarde tranquillement vers les cieux, nous savons que c'est Saint-Marc. Alors nous voyons un moine assis sur un rocher avec un crâne humain auprès de lui et regardant tranquillement vers les cieux, nous savons que c'est Saint Jérôme. Quand nous voyons un individu regarder tranquillement vers les cieux sans se rendre compte que son corps est hérissé de flèches, nous savons que c'est Saint Sébastien. Et quand nous voyons d'autres moines qui regardent tranquillement vers les cieux mais qui n'ont pas d'étiquette, nous nous demandons toujours qui ils sont. Je suis réellement navrée de parler de cette matière presque insensible, des grands maîtres et de leurs martyrs, car j'ai sur le bateau de bons amis qui m'ont instamment prié de ne pas rendre public le fait que je manque de ces qualités d'appréciation et de discernement. Il est impossible de voyager en Italie sans parler de peinture, et puis-je la voir avec les yeux d'un autre ? À l'usage de ses lecteurs, il fait quelques remarques sur la vie quotidienne à Venise et vante le charme des gondoles après les avoir traitées de corbillards. C'est le moyen de locomotion le plus aimable, le plus agréable que nous avons connu. Cela paraît tellement bizarre qu'un bateau remplace une voiture personnelle. Nous voyons des hommes d'affaires sortir sur le seuil, monter dans une gondole, comme dans un tramway, pour se rendre à leur bureau. Nous voyons les dames faire des emplettes le plus naturellement du monde, voltiger de magasin en magasin, comme partout, à la différence que c'est une gondole qu'elles laissent attendre 2 heures à la porte au lieu de leur voiture. Nous sommes allés un peu partout avec notre gondole. Nous avons acheté des perles et des photographies dans les magasins et des allumettes de cire sur la place Saint-Marc. Tout le monde se rend le soir sur cette place. L'air est plein de musique et de voix joyeuses. Parmi les jeunes femmes, beaucoup sont extrêmement jolies et s'habillent avec un rare bon goût. Nous sommes ravis. Ils ont beaucoup marché, vu tous les monuments et quittent Venise satisfaits mais fatigués. Nous étions un peu fatigués de visiter les monuments et nous avons roulé en train à travers une bonne partie du pays sans nous arrêter. J'ai pris peu de notes et je ne trouve aucune mention de Bologne. Pistoiane n'a suscité qu'un intérêt fugitif. Ils arrivent à Florence, un peu désinvolte. Florence ne leur a pas plu. Il faut dire qu'ils étaient épuisés et assommés par la chaleur du mois d'août. Et Florence ne se laisse pas conquérir facilement comme Venise. Nous avons erré à travers les interminables collections de peintures et de statues du Palais Pitti et des Offices, à travers ces musées immenses et épuisants. Nous avons tenté paresseusement de nous rappeler quelque chose à propos des guelfes et des gibelins, dont les querelles et les assassinats constituent une si grande part de l'histoire florentine. Il mentionne quand même les tombeaux des hommes célèbres de Santa Croce, les tombeaux des Médici, le David de Michel-Ange, alors ça c'est Florence, et l'enlèvement des Sabines. En bon touriste, ils sont allés au marché aux bijoux et décrit la façon dont les mosaïstes agencent les pierres pour faire une épingle à cravate. Enfin, tout est laid à Florence. L'Arno est un cloaque, nous sommes en été, c'est pas comme maintenant. Cela se fait d'admirer l'Arno. C'est un grand ruisseau historique, d'une profondeur de 4 pieds au plus profond, avec quelques chalands qui flottent. Ce serait un fleuve très plausible si l'on y déversait un peu d'eau. Les gens disent tous que c'est un fleuve. Ils accentuent même l'illusion en construisant des ponts par-dessus. Je ne vois pas pourquoi ils trouvent déshonorant de traverser à gué. En plus, un soir, en se promenant, il s'est perdu dans les ruelles étroites et noires et s'est fait arrêter par la police, qui le soupçonna d'être un conspirateur. Enfin, voici sa conclusion sur Florence. Comme les fatigues et les contrariétés du voyage vous remplissent parfois de préjugés. Je pourrais arriver à Florence sous de meilleurs auspices dans un mois et trouver tout beau et attrayant. Mais je ne tiens pas du tout à y penser maintenant. Mon expérience de Florence a été avant tout désagréable. Je préfère changer de sujet. À Pise, ils ont grimpé en haut de la tour penchée. Il note que le Duomo est une des plus belles cathédrales du monde, reflétant la prospérité commerciale et la puissance politique ancienne de la ville, mais qu'elle est entourée aujourd'hui de pauvreté, de déchéance et de ruines. Dans le baptistère, il médite devant la lampe qui a donné à Galilée l'idée du pendule et apprécie l'écho des notes émises par le guide. Ces deux attractions lui semblent plus importantes à noter que toutes les descriptions d'architecture. Ils rejoignent le bateau à Livourne. Livourne, à ce moment-là, fait partie des États pontificaux, n'est pas encore rattaché au Royaume d'Italie, puisque les États pontificaux seront rattachés en 1870. Nos voyageurs sont ravis de retrouver leur bateau. Nous avons eu l'impression de revenir chez nous, après des années d'absence. Nous n'irons pas terre à Livourne. Pour le moment, nous sommes rassasiés des villes italiennes et nous préférons de beaucoup nous promener sur le Gaillard d'arrière. Cependant, les gouvernants de la ville trouvent suspect leur navire. Ils placent une canonnière pour le surveiller et des bateaux de la police patrouillent sans cesse autour d'eux. Il faut dire qu'une partie des voyageurs est allée faire une visite amicale à Garibaldi, à l'île de Caprera, ce qui n'a pas dû plaire aux autorités pontificales. La visite amicale que certains de nos passagers ont fait hier au général Garibaldi, en réponse à son invitation cordiale, a largement confirmé les terribles soupçons que le gouvernement nourrit contre nous. On considère que la visite amicale n'était qu'une couverture pour une conspiration sanglante. Garibaldi était très connu aux États-Unis. Au moment de la guerre de sécession, il exprime sa sympathie pour l'Union. Et après les premiers échecs des troupes nordistes, l'ambassadeur américain à Turin propose à Garibaldi de prendre part à la guerre de sécession comme commandant de division. Mais les exigences de l'Italien qui veut mener les combats à sa guise font cesser les contacts. Il sera redemandé en 62, mais à ce moment-là, il a été blessé à la bataille d'Aspromonte et il refuse la proposition. La nouvelle que le bateau sera mis en quarantaine à Naples, toujours à cause du choléra, incite un groupe à prendre un bateau pour Civita Vecchia et aller à Rome et à Naples par le train. Ils prennent donc un bateau français et arrivent à Civita Vecchia. Civita Vecchia est le plus beau nid de saleté, de vermine et d'ignorance que nous ayons vu jusqu'ici. Les gens vivent dans des ruelles de 6 pieds de large qui ont une odeur particulière mais nullement agréable. Toute la région appartient aux États pontificaux. Il n'y a apparemment pas d'école. L'instruction est d'un niveau très bas. Une partie des hommes entre dans l'armée, une autre dans la prêtrise et le reste dans la cordonnerie. Il fait abominablement chaud. Il n'y a rien à voir ici. Ils n'ont même pas de cathédrale avec 11 tonnes d'archevêques en argent massif dans l'arrière-salle, ni de vieux écrans de cheminées desséchés par la fumée qui sont des chefs-d'œuvre de Rubens ou de Titien. Ils n'ont pas de fragments de saint en bouteille, pas même un clou de la vraie croix. Nous allons à Rome, il n'y a rien dû à voir ici. Il est un peu inquiet en arrivant à Rome, car il s'imagine qu'il n'y a plus rien à découvrir pour un voyageur, tant de gens y sont allés avant lui. Ils sont allés plusieurs fois à Saint-Pierre, qu'il compare au Capitole de Washington. Ses dimensions extérieures lui étaient connues. Il avait un point de repère et voulait se rendre compte par lui-même. Je me suis trompée de beaucoup. Saint-Pierre m'a paru nettement moins grand que le Capitole et n'a pas de l'extérieur le 20e de sa beauté. Mais l'intérieur, tout change. Sa hauteur et sa taille représenteraient 2 Capitoles de Washington l'un sur l'autre. Tout à l'intérieur et alentour a été réalisé avec une telle immensité uniforme qu'il n'y a pas de contraste pour donner une échelle, excepté les gens, mais je ne les avais pas vus, c'était des insectes. Les statues d'enfants tenant des vasques d'eau bénite étaient immenses. Les figures de mosaïque du dôme étaient énormes. Tout au fond de l'église, je voyais ce que l'on appelle le baldacchino, une grande charpente de bronze pyramidale, comme celles qui soutiennent les moustiquaires. Je savais qu'elle faisait un peu plus de la moitié des chutes du Niagara. J'ai essayé tous les moyens auxquels j'ai pu penser pour essayer de comprendre combien Saint-Pierre était grand. La montée au sommet du dôme a permis à l'auteur de décrire le panorama de Rome et de ses alentours et de réciter tous ses souvenirs de la Rome antique. On peut voir le Tibre et l'emplacement du pont qu'Horatio Coclès a défendu contre Porsena. On peut voir l'endroit où les Horaces et les Curias ont livré leur fameux combat. Au pied du visiteur apparaissent les ruines des temples, de colonnes et d'arcs de triomphe qui connurent les Césars et le zénith de la splendeur romaine. Puis il fait une comparaison entre les martyrs chrétiens et les martyrs de l'Inquisition et ne perd pas une occasion pour vilipender la cruauté des deux civilisations, la païenne et la chrétienne. Les ruines du Colisée lui inspirent des réflexions sur la grandeur et la décadence de Rome. Tout le monde connaît l'image du Colisée. Tout le monde reconnaît instantanément ce carton à chapeau, à trous et à fenêtres, dont un morceau a été rogné. Des fleurs et des herbes folles sortent de ses voûtes et des vignes pendent en franges de ses hauts murs. Un silence impressionnant plane sur l'immense construction et les lézards se prélassent au soleil sur le siège sacré de l'empereur. Le Colisée raconte mieux que tous les livres l'histoire de la grandeur et de la décadence de Rome. Mark Twain est très romantique là. Il imagine d'ailleurs plus que comme cette photo, il imagine plus comme un tableau d'Hubert Robert, voyez, avec romantique comme ça. Il visite tous les musées, les galeries des peintures, il cite le gladiateur blessé du musée du Capitole, le Laocoon du Vatican et tous les chefs-d'œuvre de Michel-Ange. À ce propos, en ayant assez d'entendre dire par leur guide les louanges de l'artiste, ils se moquent de lui en jouant les imbéciles et en faisant semblant de s'extasier au musée du Vatican devant une momie en demandant si elle était de Michel-Ange. Le guide était ahuri, désemparé. Ils sont allés aux catacombes qui les ont fort impressionnés. Twain en profite pour faire une digression sur les premiers chrétiens et les premiers papes qui s'y cachaient. Il fait ensuite une visite insolite au couvent des Capucins. C'est un couvent qui se trouvait à l'emplacement de la Via Veneto. Le couvent a été détruit au début du XXe siècle pour percer la voie. Il reste l'église, qui date de 1630, et la crypte a été utilisée comme ossuaire et contient les restes d'environ 4000 moines, disposés en décoration baroque. Je vais vous montrer ça parce que ça c'est le Galate, le Colombe. Voilà, c'est l'église Santa Maria della Concezione del Cappuccini. Des tombes lugubres des catacombes, il est naturel que je passe aux horreurs pittoresques du couvent des Capucins. Nous nous sommes arrêtés un moment dans une petite chapelle de l'église pour admirer un tableau représentant Saint-Michel, vainqueur du dragon. C'est celui-là, hein, il y est toujours dans l'église. Puis nous sommes descendus dans une grande crypte. C'était bien un spectacle pour les nerfs sensibles. Ah, ça c'est bien. Il y avait d'élégantes arcades entièrement construites en fémur, des pyramides effrayantes de crânes aux larges sourires, des motifs architecturaux fantastiques de tibia et en os du bras. C'est étonnant, hein ? Moi je ne connaissais pas du tout. Les touristes sont ébahis et n'osent moquer là pour une fois. Ils demandent des explications aux moines et sont étonnés du naturel avec lequel il leur répond tranquillement que ses os, après sa mort, contribueront au décor des chapelles. Qu'ont-ils retenu de Rome ? La splendeur des Vatican, son histoire antique, la puissance de la papauté, gardienne des trésors artistiques de la ville. Arrivé à Naples par le train, ils trouvent le bateau en quarantaine comme ils l'avaient prévu. Ils ne peuvent monter à bord. Les passagers qui étaient demeurés ne peuvent pas descendre à terre. Donc, ils visitent Naples et sa région. Le récit de ce séjour se base sur une ascension au Vésuve. Mais entre deux épisodes de la montée, ils partent de Naples et de tout ce qu'il y a observé. D'abord la ville. voir Naples comme nous l'avons vu aux premières lueurs de l'aube depuis les hauteurs du Vésuve, c'est voir un tableau d'une beauté exceptionnelle. À cette distance, ces bâtiments crasseux paraissent blancs et ils s'entassaient en d'innombrables rangées de balcons, de fenêtres et de toits, depuis la mer jusqu'au colossal château Saint-Elme. Mais n'allez pas dans ces murs pour la regarder en détail. Cela lui enlève du charme. Les habitants ont des habitudes dégoûtantes qui rendent les rues dégoûtantes et provoquent des spectacles et des odeurs désagréables. Les rues ont généralement la largeur d'une voiture. Les fourmis de monde, c'est Broadway dans chaque rue, chaque cour, dans chaque ruelle. Des multitudes d'humanité qui se précipitent, s'affairent, se démènent. La perspective d'une de ces rues crevasses, bordée de ces hautes maisons, avec ses cordes à linge qui la traversent à toutes les hauteurs et font flotter des hardes comme des bannières sur des essaims de passants. Une telle perspective vaut vraiment la peine d'entrer dans les détails de Naples. Ensuite, ils se rendent dans les îles de la baie, Ischia et surtout Capri avec sa grotte bleue. Nous avons frété un petit vapeur et nous y sommes allés. Naturellement, la police nous a abordés et nous a fait passer un examen de santé, puis nous a questionnés sur nos opinions politiques, avant de nous laisser aller à terre. Les airs que se donnent ces insectes de petits gouvernements sont ridicules. Ils ont même mis un policier à notre bord pour nous surveiller. Ça, ce sont les Américains, n'est-ce pas, qui arrivent et qui sont vraiment indignés qu'on les traite comme ça. À partir de l'île de Procida, ils vont à Pouzzole, où Saint Paul a débarqué en venant de Samos. Saint Paul a prêché là 7 jours avant de partir pour Rome. Les souvenirs bibliques ne quittent pas ces pèlerins en route pour la Terre Sainte. Visite des ruines romaines de Baïès, de Cume et de sa Sibylle, du lac d'Agnano. Puis nous avons examiné tout cela, et sans autre lieu intéressant, avec une imbécilité critique. Mais la grotte du chien a retenu notre attention, parce que nous en avions tellement entendu parler. À cette époque, les touristes arrivaient avec un chien et le regardaient s'asphyxier dans la grotte par les vapeurs létales qui s'en dégageaient. En tout cas, eux n'avaient pas de chien, heureusement. Puis après avoir planté le décor, Twain observe les Napolitains. J'observerai en passant que les contrastes entre l'opulence et la pauvreté, entre la magnificence et la misère, sont plus fréquents et plus frappants à Naples qu'ils ne le sont même à Paris. Dans les rues principales de Naples, tout est mélangé, lambeaux et guenilles et uniformes éclatants, carrioles à ânes et attelages d'apparat, mendiants, princes, évêques, se bousculent dans toutes les rues. Tous les soirs à 6h, Naples tout entière sort se promener sur la Riviera di Chiaia. Et pendant 2 heures, on peut y contempler la procession la plus bigarrée et la plus disparate qui soit. Durant 2 heures, le rang et la fortune, l'obscurité et la pauvreté trottent bruyamment côte à côte dans une procession insensée. Ils vont au théâtre San Carlo. Écoutez une cantatrice célèbre, mais vieillissante et pas au mieux de sa forme. Twain laisse exploser son indignation quand il relate l'accueil que lui fait le public napolitain. J'ai dit que je n'avais rien contre les classes supérieures, faute d'observation personnelle. Mais ce que je les ai vus faire hier soir, je crois que l'allie la plus basse de la chrétienté rougirait de le faire. Elles se sont rassemblées par centaines et même par milliers dans le grand théâtre San Carlo. Pour faire quoi? Simplement pour se moquer d'une vieille femme, pour tourner en dérision, siffler, huer une actrice qu'ils vénéraient autrefois, mais dont la beauté est maintenant fanée et dont la voix a perdu son ampleur. Ce fut un spectacle extrêmement cruel, impudique, impitoyable. Mon observation me convainc que la haute société de Naples possède des traits de caractère, de bassesse et de méchanceté. Par ailleurs, ce sont peut-être des gens très bien, je n'en sais rien. Le miracle de Saint-Janvier lui donne une occasion d'écrire les sarcasmes habituels contre les superstitions, la crédulité des habitants et la cupidité du clergé. Nous avons l'habitude maintenant. Dans la ville de Naples, on entretient l'une des impostures religieuses les plus misérables que l'on puisse trouver en Italie, la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Cette farce sinistre se répète pendant 8 jours, tandis que les prêtres vont dans la foule recueillir l'argent pour le spectacle. Le récit de l'ascension du Vésus donne lieu à des scènes classiques de marchandage avec les guides, d'ânes qui ne veulent pas avancer, de guides incompétents, de marches épuisantes dans la lave et la pierre ponce. Cette ascension permet aussi des vues merveilleuses sur la baie de Naples et la campagne environnante. L'arrivée au sommet donne lieu à une description du cratère. Le cratère ressemblait à une douce prairie. Là où la prairie s'était affaissée et où des portions s'étaient brisées comme une banquise, les cavités ouvertes d'un côté et les arêtes renversées d'un autre étaient drapées d'une dentelle de cristaux de sulfure de couleur tendre qui changeaient leur difformité en figures fantastiques pleines de grâce et de beauté. Toine devint lyrique quand il parle de la nature. La visite à Pompéi d'abord l'étonne. Il pensait que la ville était encore complètement enfouie et il la trouve bien dégagée. En se promenant dans les rues, en visitant les maisons, il imagine la vie des habitants. Il éprouve les mêmes émotions que nous ressentons encore devant les ornières des chars, les inscriptions sur les murs et surtout ces cadavres de gens surpris dans leur fuite. En définitive, la ville lui inspire une méditation sur la mort et sur tout ce qui est éphémère sur cette terre. Il cite un passage de Pline le Jeune qui se termine ainsi. Certains imploraient le secours des dieux et d'autres pensaient que cette nuit serait la dernière, la nuit éternelle qui engloutirait l'univers. Il ajoute pour lui-même, c'est aussi ce qui m'a semblé et je me suis consolé de la mort à venir en pensant, regarde, le monde se meurt. La quarantaine étant levée, tous les passagers sont réunis et le bateau quitte l'Italie. Enfin chez nous, pour la première fois, depuis plusieurs semaines, toute la famille du bateau s'est retrouvée. Personne ne manquait. Une fois de plus, le public était au complet sur le pont, tandis que nous nous éloignions rapidement de Naples. Au-delà de ce descriptif, nous pouvons quand même nous demander quel est le savoir-faire de Twain, sa façon de voir les choses, et quelle est la part de sérieux et d'humour dans son livre. Twain n'oublie pas qu'il est un correspondant de journal chargé de faire des papiers destinés à ses lecteurs. Il décrit ce qu'il voit, mais il se doit aussi d'expliquer la géographie et l'histoire des pays traversés, ainsi que la société et même l'économie et la politique. Je vais vous en donner quelques exemples pour l'Italie. À Gênes, il reprend la rivalité des républiques de Gênes et de Pise, la prospérité du commerce avec l'Orient, leur lutte avec contre les Sarrasins et le déclin de la ville. À Venise, lors de la visite au palais des Doges, il tente d'expliquer les subtilités du gouvernement de la Sérénissime, les sénateurs, le conseil des 10, l'élection du Doge. Il rapporte également tout le folklore des dénonciations, des arrestations, des prisonniers sous les plombs. Il décrit le mode de vivre des habitants, comme ses lecteurs pourraient le percevoir, la nonchalance des Italiens, leur façon de se promener le soir, en prenant leur temps et en même temps la pauvreté du peuple et leur ignorance. On touche ici le sentiment égalitaire du citoyen américain et en même temps son sentiment de supériorité qui se reflète dans les remarques de Twain. Les Italiens ne sont pas des hommes d'affaires comme les Américains. Ils sont un peu ce qu'on pourrait appeler décadents. Je cite une réflexion à propos des Vénitiens. Nous avons vu les palais de tous ces anciens doges. Et nous avons vu leurs descendants efféminés promener leur noblesse en élégants costumes français sur la place Saint-Marc, manger des glaces et boire du mauvais vin, au lieu de détruire flottes et armées comme le faisaient leurs glorieux ancêtres au temps de la grandeur de Venise. Il n'admet pas que des citoyens américains soient traités comme de vulgaires conspirateurs garibaldiens et soient soumis à des contrôles sanitaires, soient arrêtés et surveillés par la police. Il nous a relaté les épisodes de son arrestation à Florence, la surveillance du bateau à Livourne, les contrôles à Capri. Ces sentiments de supériorité se reflète aussi lorsqu'il s'agit d'économie et de politique. Il faut dire que Twain réserve sa considération aux États forts, comme la France de Napoléon III ou la Russie d'Alexandre II. Il juge l'Italie sans ambition. Il y a bon nombre de choses en Italie que je ne comprends pas. Et notamment, je n'arrive pas à comprendre comment un gouvernement en banqueroute peut avoir des gares aussi princières et de telles merveilles de route. Quant au chemin de fer, nous n'en avons pas de semblable. Les wagons glissent sur les rails comme sur des patins. Les gares sont de grands palais de marbre avec des majestueuses colonnades et des plafonds décorés de fresques. Dans les routes, les voies ferrées, les gares et les nouveaux boulevards, je vois le génie de Louis-Napoléon. Plutôt, je vois l'imitation des ouvrages de cet homme d'État. Mais Louis a veillé en France à ce qu'il y ait un fondement à ses améliorations, l'argent. Il a toujours les moyens d'appuyer ses projets. Ceci renforce la France et ne l'affaiblisse pas. Mais ici, le cas est différent. Ce pays est en faillite. Il n'a pas d'assise réelle pour ses grands travaux. La prospérité qu'il voudrait donner est une simulation. Il n'y a pas d'argent dans les caisses du trésor et les travaux affaiblissent le pays au lieu de le fortifier. L'Italie a satisfait son plus cher désir en devenant un État indépendant. Sans expérience du gouvernement, il s'est jeté dans toutes sortes de dépenses inutiles qui ont vidé son trésor. Elle a gaspillé des millions de francs pour une marine de guerre dont elle n'avait pas besoin. Et la première fois qu'elle s'est servie de son nouveau jouet, il est parti en fumée. Il y a un an, quand l'Italie s'est aperçue qu'elle allait à la ruine totale et que ses billets de banque valaient à peine le prix du papier, son Parlement s'est risqué un coup de main qui aurait épouvanté le plus résolu de ses hommes d'État dans des circonstances moins désespérées. On a pour ainsi dire confisqué les biens de l'Église, et cela en pleine Italie où les prêtres sont rois. C'est dans un pays qui, depuis 1600 ans, tâtonne dans les ténèbres de la superstition cléricale. En ceci, Twain est bien renseigné, il n'exagère pas. Le nouvel État était dans une situation financière catastrophique. Le financement du Risorgimento a plombé les finances de l'État sarde. Il a dû créer une armée moderne et le coût des campagnes militaires et de la participation sarde à la guerre de Crimée, on se demandait bien ce qu'il allait y faire, achever la ruine. La vente des biens des congrégations religieuses n'a pas permis de limiter la dette. Il a fallu recourir à l'impôt et aux emprunts auprès des banques étrangères. Il faut ajouter que la marine, achetée à grands frais aux nations européennes et aux États-Unis, a été décimée lors de la bataille de Lissa dans l'Adriatique en 1866, les Autrichiens étant sortis vainqueurs de ce combat. Le Red Italia que vous voyez, c'est un frégate cuirassé qui a été acheté aux États-Unis et puis qui a été coulé. Un magnifique tableau. Il compare également le prix des marchandises en France et en Amérique et en Italie. L'Italie est bien moins chère que tout ce qu'il a vu. Et en bon touriste, ce qu'il compare, c'est le prix des vêtements. Vous trouverez ici de beaux costumes de ville pour 10 ou 20 dollars. Et à Livourne, vous pouvez avoir, pour 15 dollars, un pardessus qui vous en coûterait 70 à New York. Le velours de Lyon est mieux coté en Amérique que celui de Gênes. Cependant, la plupart des velours de Lyon que vous achetez aux États-Unis sont faits à Gênes et importés à Lyon, où ils reçoivent la marque de Lyon avant d'être exportés en Amérique. Ça date pas d'aujourd'hui, hein ? Pour 25 dollars, vous pouvez acheter à Gênes assez de velours pour faire un manteau de 500 dollars à New York. C'est ce que me disent les dames. C'est un bon shopping, hein. Donc, voilà pour l'économie. Maintenant, nous avons pu voir que Twain a des problèmes avec la religion. Mais ici encore, tout n'est pas simple. En bon protestant puritain, il déteste la richesse inutile de l'Église dans un pays pauvre. Actuellement, à Venise, ville de 100 000 habitants, il y a 1 200 prêtres. Il y a la grande église des Jésuites. Tout autour de l'église, malheur et misère abondent. À sa porte, une douzaine de chapeaux et de bonnets se sont enlevés devant nous. Autant de têtes se sont inclinées humblement et autant de mains se sont tendues implorant quelques pièces. Implorant en silence, avec des yeux tristes, des joues creuses et des vêtements en loques, qui n'avaient pas besoin d'être traduits en mots. Puis nous avons franchi les grandes portes de l'église et nous avons pensé nous trouver devant toutes les richesses du monde. À quoi servent toutes ces richesses inutilisées alors que la moitié de la ville sait à peine comment elle va arriver à faire tenir ensemble son corps et son âme d'un jour à l'autre? Il se manque des fausses reliques, des saints dont l'existence est douteuse, des moines gras et sereins, mais il apprécie l'attitude de ceux qui se dévouent pour les maladies lors des épidémies. Il ne dit que du bien de Charles Borromée et des moines qui soignent les malades lors des épidémies de choléra. Le choléra avait sévi en Italie l'année précédente et la peur était encore là, comme on l'a vu avec les quarantaines et les contrôles sanitaires. Après avoir parlé si librement des prêtres et des églises, je pense que la justice exige que je dise ce que je sais de bien sur les uns et sur les autres. La plus remarquable qui me vient à l'idée est le dévouement que l'un de ces ordres mendiants a déployé pendant l'épidémie de choléra l'année dernière. Quand le choléra faisait rage à Naples, quand les gens mouraient par centaines, chaque jour, quand tout souci de salut public disparaissait sous l'égoïsme général, ces hommes se sont rassemblés et sont allés soigner les malades et enterrer les morts. Il n'oublie pas qu'il fait partie d'un pèlerinage, il se recueille sur le tombeau de Saint-Pierre au Vatican, à la prison Mamertine, et il se souvient que Saint-Paul a débarqué à Pouzzole. Là, il n'y a plus d'ironie. On pourrait parler aussi de Twain comme critique d'art. L'attitude de Twain devant l'accumulation d'œuvres d'art que détient l'Italie peut sembler iconoclaste par son ironie, mais ici encore il faut lire entre les lignes. Il ne comprend pas que des peintres aussi géniaux que Raphaël, Titien, Michel-Ange ou Rubens se soient abaissés à glorifier la gloire des princes qui étaient à ses yeux des tyrans. Il commence cette diatribe à Paris, au Louvre. Leur adulation écœurante pour leur patron était ce qui me frappait le plus, et elle retenait mon attention plus sûrement que les charmes de la couleur et de l'expression dans les tableaux. Et il poursuivra tout au long de son séjour en Italie. À Florence, il s'en prend aux Médici, qui d'après lui ont tyrannisé Florence et ont fait son malheur pendant plus de 200 ans. Ils ont fait peindre de grandes fresques de leurs exploits insignifiants et oubliés sur terre et sur mer, comme l'ont fait les doges de Venise, avec le Sauveur et la Vierge qui leur jettent des bouquets du haut des nuages, et Dieu lui-même qui applaudit sur son trône céleste. Mes amis me reprochent d'avoir des préjugés contre les grands maîtres, parce qu'il m'arrive de ne pas voir les beautés qui existent dans leur production. Je n'y peux rien, si je ne la vois que de temps en temps, mais je continue à protester contre l'esprit vil qui a pu persuader ses maîtres de prostituer leurs nobles talents dans l'adulation de tels monstres. Cependant, il laisse transparaître sa sensibilité dans certains passages. J'ai le vertige quand je pense au Vatican, à sa jungle de statues, de tableaux et de curiosités de toutes sortes. Je crois que je ne me rappellerai jamais clairement ce que j'ai vu, sauf les momies et la transfiguration de Raphaël. Je me rappellerai la transfiguration de Raphaël, d'abord parce qu'elle était presque seule dans une pièce et parce qu'elle est merveilleusement belle. Si je trouve tant de séduction dans ce tableau, ne serait-ce pas qu'il est en dehors du chaos forcené des galeries? Si d'autres tableaux étaient montrés séparément, ne pourraient-ils pas être beaux? Si jusqu'ici, je n'avais vu qu'un seul des grands maîtres dans chaque palais, au lieu des centaines de murs et de plafonds littéralement tapissés de leurs œuvres, ne pourrais-je avoir d'eux une opinion plus civilisée que j'ai à présent? Je pense que si. Effectivement, vous voyez les galeries de Rome, enfin vous les connaissez. L'idée commence à se faire jour en moi, que ce que j'ai pris pour de la laideur uniforme pourrait être après tout que de la beauté uniforme. Après avoir éreinté les saints de Venise, Il s'excuse auprès de ses lecteurs, mais il se justifie aussi. Si je ne me délectais pas autant des grands tableaux qui sont exposés devant moi chaque jour de ma vie, par ce maître des maîtres qu'est la nature, je finirais par croire que je suis incapable d'apprécier le beau. Toi, en effet, très sensible, nous l'avons vu, aux beautés des paysages. Sur le lac de Côme, il décrit avec enthousiasme les vergers, les montagnes, les belles villas, les reflets sur l'eau. De ma fenêtre ici à Bellagio, j'ai maintenant une vue sur l'autre rive du lac, aussi belle qu'un tableau. Pendant le trajet Venise-Florence, il peste contre les tunnels qui l'empêchent de voir le paysage. Il se délecte des vues de la baie de Naples qu'il voit depuis le Vésuve. Il aime bien les statues, par contre. Il admire les statues du cimetière de Gênes, avec cependant un commentaire qui reflète bien le goût de son temps. À Milan, il est stupéfié devant l'architecture et les statues de la cathédrale. À Venise, il s'étend sur les tombeaux monumentaux des Frari. À Florence, il cite le David de Michel-Ange et l'enlèvement des Sabines, mais pas un tableau. À Rome, il a apprécié cette merveille de l'art, le gladiateur mourant du Capitole et le groupe du Laocoon du Vatican. En réalité, Twain se comporte comme un homme de bon sens, qui joue à l'innocent. Il n'approuve pas les spectateurs de la scène qui admirent ce qu'ils imaginent voir. Il essaie de dire que le trop-plein de tableaux empêche la réflexion et la reconnaissance de leur beauté. Cependant, ses préjugés et ses sentiments égalitaires d'un Américain de son temps lui font méconnaître le statut de l'artiste à la Renaissance et à l'âge baroque, qui sont dépendants des commanditaires, aussi bien religieux que politiques. Enfin, nous le savons maintenant. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Le voyage des innocents est plus qu'un livre de voyage. On trouve dans cet ouvrage les qualités du futur écrivain célèbre que sera Twain. Le pittoresque des descriptions, les portraits vivants, des récits bien menés et amusants. Il décrit avec humour un voyage touristique moderne. Ses critiques, ses indignations, sa fatigue, sa lassitude ont été ressenties par ses compagnons. Mais il met aussi en avant leur curiosité pour la façon de vivre des habitants de la vieille Europe et leur admiration devant des merveilles qu'ils n'avaient pas soupçonnées. Ce livre a eu un succès énorme, puisque la première année, il s'est vendu à 70 000 exemplaires et a fait de Twain, d'un journaliste estimé, un écrivain reconnu. Son génie a été de faire de ce voyage une œuvre de littérature où ses lecteurs se sont retrouvés dans ce touriste innocent, féru de principes égalitaires, qui revendique son titre de citoyen américain et qui oppose la jeune démocratie férue de progrès à la vieille Europe. Voilà.
Pour l'Italie, elle a beaucoup changé.
Oui.
Après l'arrivée des Américains, d'ailleurs, ils se sont qui ont quand même éradiqué la malaria qui sévissait très fortement en Lombardie et ailleurs. Mais le livre est très très bien écrit, bien expliqué. Merci, Geneviève. On n'attendait pas moins, d'ailleurs.
Merci.
Mais est-ce que vous avez des questions à poser?
Si vous avez des questions, moi je ne vois pas très bien ce qu'on peut ajouter parce que c'est tellement complet. Simplement, je veux faire remarquer que l'Italie était particulièrement pauvre à l'époque. Et c'est d'ailleurs, il me semble, le début de l'émigration
extrêmement
importante, justement, vers les États-Unis.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, moi j'ai lu des articles, justement. D'économie pour, à cette époque, et ils disent vraiment que l'Italie était vraiment en faillite et c'était épouvantable. Le gouvernement était complètement, disons, n'avait l'expérience du budget et tout ce qu'ils avaient fait, aucune expérience du budget, ils avaient fait des dépenses inconsidérées, ils étaient complètement en faillite.
Une autre remarque quand même, c'est que c'est aussi le but du développement industriel de l'Italie, parallèlement à celui qui a eu
bah là, pour la...
en France, et là il n'en parle pas.
Non, il n'en parle pas, non. Non, mais vous savez, c'était... Il parle des gares, des trains, des routes.
Non, mais de toute façon, Stendhal faisait des remarques similaires. Georges Sand, quand elle parle de Venise...
C'était la pauvreté.
Bah oui, mais c'est un peu avant, c'est un peu avant. Mais enfin là, le.
C'était sous le gouvernement autrichien.
Oui, voilà. Tandis que là, l'Italie est indépendante, là, quand même, depuis quelques années.
Oui. Non, mais il y a une question que je ne sais pas si on a bien compris, à propos de Tétra.
Oui.
Franchement, non, mais là, est-ce que tu peux reprendre...
Ben, je vais vous le relire, alors. Il parle de Monsieur Pétrarque. Ben, Monsieur Pétrarque, c'est Hugues de Sade. Puisqu'il dit, tout le monde parle de l'or, mais est-ce qu'on parle du mari? C'est ça. Le pauvre mari qui... Ben oui. Voilà. Alors, ce monsieur parle de Pétrarque, là. Ce monsieur qui aime la l'or d'un autre. C'est Pétrarque qui aime la l'or d'un autre.
La l'or d'un autre.
Voilà. Et lui prodigua toute sa vie un amour qui était un vrai gaspillage de matières premières. Sentiment profond, mais absence de discernement. Alors, on parle toujours de Pétrarque. Hein. Il rendit les deux personnages célèbres et créa pour les âmes sensibles une source de compassion qui n'est pas encore tarie. Mais qui se préoccupe du pauvre Monsieur Laure? Je ne connais pas son autre nom. Qui chante sa gloire? Voilà. Qui verse des larmes pour lui? Qui écrit de la poésie pour lui? Personne. À votre avis, justement, à votre avis, que pensait-il de la situation qui a procuré au monde tant de plaisir? Ça y est, t'as compris maintenant.
C'est absolument incroyable comme réponse.
Croyez-vous que ça lui plaisait de voir un autre homme suivre sa femme partout? Avec ses sonnets dédiés aux sourcils de l'or, alors qu'il avait sur eux un droit de préemption. Ça y est, t'as compris. Ces deux-là ont acquis renommée, sympathie, alors que lui n'a rien eu. Tout cela est très bien, mais ne correspond pas à ma conception du droit. Voilà. Il est choqué que tout le monde parle de l'or et de Pétrarque et non pas du Marquis.
Ce qui prouve bien, c'est qu'il n'est pas gentil de la poésie.
Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'il s'amuse. Il s'amuse, là. Il s'amuse, pardon.
Une simple remarque, c'est que ce que dit Twain sur la Sicile, sur Naples, sur le voyage pour Naples, eh bien, pour marquer que quelques 20 ans après, Alexandre Dumas, père, dira exactement la même chose.
Oui, je sais.
Mais il n'a pas lu Twain. Hein.
Non, mais je sais, oui. Puis t'as vu, il a cité Pline le Jeune. Hein.
Ah oui, c'est dans la fameuse lettre.
La fameuse...
Où il parle du
Vézé, de la mort de son oncle. Oui, c'est ça, oui.
Il est impressionnant.
Oui. Voilà.